parce que beaucoup des musiciens du Bones Project sont eux-mêmes sur leur propre projet, comme Hervé Sam, le guitariste, ou Jerry Leonide, qui ont aussi leurs propres enregistrements et qui poursuivent leur carrière solo. Mmh. Et donc tout ça fait que cette année, effectivement, pour ce nouvel album, il a décidé de prendre des musiciens un petit peu, pas différents, enfin d'autres musiciens, en tout cas pour la rythmique, avec donc effectivement Joe Champ à la batterie, Hichem Zougart, qu'on appelle nous Zou, à la basse.
Joe Champ à la guitare, peut-être.
Donc au clavier, Bruno Pimienta pour le band en live à la batterie. Et par contre, les cuivres sont restés pour l'instant les mêmes, avec Pierre Chabrel au trombone et Ma Pomme au saxo.
Voilà, exactement. Nadège Dumas au saxophone. Donc, Exit Mike Armogoum, par exemple, qui a assuré la basse. C'est plus le Bones Project, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une modification du son. C'est plus vrai dans le titre qu'on vient d'entendre, qui est beaucoup plus rock, ça, on a dû vous le dire déjà, et vous avez dû le lire par ailleurs. Mais en dehors de ce titre-là, qui est très, très accrocheur, presque agressif, en tout cas très urbain, on retrouve quand même des choses connues, même si ce sont uniquement des nouveaux titres de Bonnefields.
So this particular song, Bump City, has a real different sound and energy. Is very, fine, it's much rock. But in the other songs, even if it's different musician, you can still find the pretty much the ideas and style of music that Bonnefield was doing before.
Of course, because it's Bonnefield. Some things don't change, it just elevates, you know, so the level of the music elevated, but the style remains pretty much the same.
Oui, donc il expliquait que oui, effectivement, ça reste quand même du Bonnefield, et certes, il y a certains sons et même certaines chansons différentes, mais voilà, c'est pas parce qu'on a changé de musicien qu'il va complètement changer ses compositions, c'est juste à un niveau un peu différent.
On peut écouter une intro, c'est le deuxième titre justement, ça s'appelle Sadie, et ça c'est un emprunt, parce qu'il y a également des reprises sur ce titre, sur cet album.
So Sadie, for instance, that's a cover.
Well, it's somewhat of a cover. I did it like maybe 25, almost 30 years ago with a group out of Chicago that I was a part of called the Burning Chicago Blues Machine. Mm.
Ouais, alors en fait, c'est Sadie, et il y a deux autres titres également sur l'album qui sont certes plus ou moins des reprises, mais en fait, ce sont des titres qu'il a interprétés et co-composés à l'époque où il était dans ce groupe Burning Chicago, il y a 20-25 ans à peu
c'est
près,
ça,
qui, comme son nom l'indique, est un groupe de Chicago qui était son groupe de l'époque, en fait.
Et ça, c'était...
But the song was never heard over in Europe or... Oui.
Voilà, mais c'était sur un album qui n'a pas vraiment été distribué, ça a juste été des enregistrements en local, on va dire.
Voilà, effectivement, ça figure d'ailleurs sur la discographie qui est présente sur le site internet de Bonnefields, juste avant en fait d'intégrer le groupe de Luther Allison. Rappelons que Bonnefields a été l'un des trompettistes, un des musiciens de Luther Allison, juste avant sa malheureuse disparition en 1997.
Mark is just reminding that you was Luther Allison's last trumpet player just before he passed away in 1997.
True, very true.
Oui,
ouais,
bah, tout à fait.
Voilà, et donc il figure sur ce Live in Paradise qui était sorti deux ans après sa mort, je crois, en 1999 chez Roof Records. Je voulais savoir, parce qu'on va revenir un petit peu sur le passé à propos de Luther Allison et de James Cotton, je voulais savoir ce qu'il gardait maintenant en 2018 du fait d'avoir fait partie du band de Luther Allison. Est-ce que c'est quelqu'un qui y pense souvent? Est-ce que ça a été un inspirateur à un moment donné? Et est-ce que c'est toujours quelqu'un qui l'inspire maintenant?
Okay, so he's gonna go back to James Cotton and people like this, but what about Luther? Was it a big inspiration in your career? Is it somebody that you think about often? What did he bring to you?
Well, just like James, Luther Allison was a big influence on building my style and my career, you know. Mm. As I watched James, I used to watch Luther on stage, you know, and they taught me a lot about being a front man. And how to control the audience.
Oui, en fait, de la même façon que James Cotton, effectivement, Luther l'a beaucoup influencé, il l'a beaucoup observé sur scène, la façon dont il se comportait. Et en fait, James Cotton et Luther, ils ont vraiment appris à être un frontman, enfin un band leader, un artiste du devant de la scène, en fait, et comment on fait pour s'approprier en quelque sorte son public et mettre les gens dans sa poche quelque part.
Alors voilà, ça c'est un peu le challenge aussi, et puis c'est le rôle du frontman, donc c'est de mettre le public dans sa poche et d'être capable d'aller chercher les gens au plus profond, et y compris à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Moi je me souviens de ce live à Vienne qui avait eu lieu à quoi, 3h du matin, c'est ça? 6h du matin, non mais
6h du matin.
C'est de la folie. Et puis il y avait quand même encore quelques centaines de personnes devant tout le Bones Project à l'époque pour assister à l'enregistrement de ce concert live. Et puis le disque en témoigne, il y avait du monde et des gens vraiment enthousiastes. C'est ça aussi le Bonnefields, le groupe de Bonnefields, et puis la fougue et puis l'espèce d'énergie qui se dégage de chacun de ces concerts. C'est on entraîne les gens, on réfléchit plus à autre chose, on est dans la fête, c'est ça l'idée?
Okay, so Mark was saying that you can feel in your concerts and the live at Jazz à Vienne is a big testimony for that this band, Bones Project, or the new band too, has a lot of energy and is capable to grab the audience, doesn't matter what time it is, can be at 6 in the morning like in Jazz à Vienne. So is it the secret of Bonnefields to put all this energy on stage, live?
No, well, see, when I pick out musicians, I expect them to already have that energy. So when I'm performing, I feed off the energy that they give me. That keeps me going.
Oui, en fait, quand il choisit les musiciens, il prend aussi des gens qui ont déjà ça un petit peu en eux, c'est-à-dire cette énergie, et en fait, il s'en nourrit lui-même pour pouvoir la retransmettre au public, en fait.
En parler, merci Nadège. Tu me feras penser, avant la fin de l'interview, de te demander combien je te devrais pour toutes les traductions que tu me fais bien gentiment. C'est vrai que le son n'est pas formidable, même dans mon casque, et donc j'avoue que même si je comprends un tout petit peu l'anglais, je rame un peu pour comprendre ce que me dit Bonnet, parce que voilà, le son n'est pas fameux. Mais toi, tu l'as juste à côté de toi, alors merci déjà pour tout ça. On parlait tout à l'heure de Luther Allison, on peut évoquer également James Cotton, qui nous a quittés il y a pas si longtemps, et on va rappeler également que Bonnefields a été l'un des invités sur l'album de Nico Wayne Toussaint l'année dernière, quand il a fait son Plays James Cotton. You played with Nico Wayne Toussaint last year for his last album about the songs of James Cotton. What are your feelings about this recording? Quels sont ses sentiments par rapport à ça?
Je vais être obligé de lui retranscrire, c'est très clair ce que tu dis, mais au niveau du son, il n'a pas bien entendu, donc je vais un petit peu répéter, excuse-moi. C'est pas du tout que la traduction n'est pas bonne, c'est le son est un petit peu faible. So, he was talking about James Cotton, you being a former member of James Cotton, and you was invited by...
the last member.
Okay, and the dernier membre du James Cotton band. And you was invited by Nico Wayne Toussaint to play on his tribute album to James Cotton, and also to perform with him at the New Morning for his release party. What do you think about this album and what Nico Wayne was doing?
Personally, I'm very proud of what Nico's doing. He brought back memories that, you know, stayed in my heart for a long time. So when I heard he was doing the new album, it was an honor for me to be a part of it. So yes, I'm very happy that he did it, and I wish him all the luck in the world.
Oui, en fait, il a été très très touché, il est très fier aussi de ce que Nico a accompli. Ça lui a vraiment rappelé les good old days, le bon vieux temps où il jouait avec James Cotton. Il a vraiment fait un truc dans l'esprit, et il lui dit bravo, et vraiment il lui souhaite le meilleur pour cet album et la poursuite de sa carrière avec cet album.
Voilà, merci pour ça. Toujours à propos de Bonnefields, cette fois-ci, je sais qu'il partage sa vie entre Paris et Chicago. Vous jouez régulièrement sur Chicago. Est-ce que vous allez avoir l'occasion de défendre ce nouvel album, Bob City?
Okay, so Mark says he knows that you are between Chicago and Paris. You play often in Chicago. Are you going to have occasions to play this album in Chicago, defend this album in the States?
I certainly hope so.
L'espère, oui.
I keep my fingers crossed.
Oui, alors bien sûr, il espère, mais bon, c'est pas. Il y a beaucoup de monde aux États-Unis et c'est pas forcément toujours très simple de. Voilà, de trouver des scènes, de trouver des scènes qui puissent accueillir notamment cette musicien. Et l'album n'est pour l'instant pas distribué aux États-Unis. On espère que ça va venir et on croise les doigts.
Right, you know, with a name like Bump City, it represents all cities everywhere. So that includes Chicago too. So, you know, I hope I get back there and give them a taste of Bump City.
Voilà, Bump City, en fait, donc la ville du Bump, du Shake, voilà, ça parle un petit peu de toutes les villes, donc évidemment Chicago en fait partie et il espère qu'il aura l'occasion de leur montrer qu'à Chicago aussi il y a de la place pour Bump City.
Voilà, tout à fait. On revient sur ce disque et les musiciens qui le composent. On n'a pas évoqué Charles Pazzi qui intervient à l'harmonica là, sur deux titres, dont la reprise de Steve Miller qui s'appelle Yin Yang. Cette rencontre avec Charles Pazzi, elle ne date pas d'hier, j'imagine.
We haven't talked about the guest, and let's talk about Charles Pazzi, who plays on Yin Yang. So this meeting with this with Charles Pazzi is not something new. You've been knowing Charles for a long time.
Yeah, I've been knowing Charles before. You know, he really got really great on the harmonica, and once I saw him start excelling, you know, it impressed me that I really needed to have him on my album. He was this dynamite.
En fait, il connaît Charles depuis très longtemps, quand il n'avait pas encore atteint ce niveau extraordinaire qu'il a à l'harmonica, et ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'il excelle sur cet instrument. Et si je peux rajouter un petit truc perso, en fait, il était invité sur l'album précédent aussi, puis il y a eu un quiproquo, enfin ça n'a pas pu se faire, mais c'était déjà prévu sur l'album précédent, donc Bonnie est très content que ça ait pu se faire cette fois-ci. Effectivement, il déchire tout.
So Yin Yang was the perfect song for him, because you know it's a James Cotton song that I wanted to do to like in memorations of the time that I spent with him.
Oui, parce que effectivement Yin Yang est une compo de Steve Miller, mais c'est avant tout pour Bonnie un titre qui a été performé et joué par James Cotton, et que c'était vraiment évidemment du coup en termes d'harmonica la chanson parfaite pour featuring pour mettre en lumière Charles Pazzi, et était voulait vraiment, par rapport au départ récent de James Cotton, qui l'a quand même beaucoup affecté, lui rendre hommage, et ce titre-là lui paraissait parfait.
I had a lot of choices too, you know, there was Nico, there was Jean-Jacques, and, you know, a few other harmonica players that I considered, but no, Charlie was the perfect choice.
Voilà, il y avait le choix également avec Nico N. Toussaint et Jean-Jacques Milteau, mais c'était le choix parfait, c'est bien ça?
Tout à fait, bravo Marc.
Je voulais également signaler que Bonnie est le signataire de la moitié des titres qui compose ce 12 titres Bump City. Je voulais savoir, et là ce sera peut-être une question un petit peu plus particulière, un petit peu plus personnelle pour vous deux, Nadège et Bonnie, comment se fait l'écriture d'un titre signé Bonnie Field? Est-ce que Nadège y apporte aussi son petit grain de sel, son petit ses remarques, ou carrément participe à temps plein à la création artistique des titres de Bonnie Field?
Ok, so, je vais laisser Bonnie répondre d'abord, et puis après je mettrai mon petit grain de sel.
D'accord, voilà.
So Mark is asking, how does the composition work is done in the band? I mean, do for instance my Nadej, me, do I also participate? So we want to have your version, and then I will tell mine.
Okay, you know, you want to talk about how I do the creating.
Oui, c'est ça.
Okay, well, you know, first I have the rhythm section come down, and we map out all the programs that are tied up in my head. Once I get them out of my head and present it to the musicians the way I want it, then I bring the horn section in. We sit down together, and we map out an idea, you know. Everybody has their parts on giving ideas, and you know, I take pieces of everybody's ideas and create the idea.
Voilà, en fait, le processus de création, c'est d'abord avec la rythmique. C'est-à-dire que Bonnie ne fait pas de pré-prod ou de programmation à l'ordinateur. En fait, il a toutes les idées dans la tête. Il réunit d'abord la rythmique. dans le studio de répétition. Mmh. Et là, il leur donne à chacun leur partie, ce qu'ils doivent jouer. Et une fois que tout ça est en place et que ça tourne, à ce moment-là, c'est la section cuivre qui intervient, qui se réunit et qui, avec un papier, un crayon et les instruments, bien sûr, écrit des arrangements cuivre.
D'accord.
Et là, du coup, chacun, effectivement, a voix au chapitre. Et en général, c'est vraiment un travail de collaboration où chacun amène sa petite idée et sa petite pierre à l'édifice pour faire ses lignes de cuivre.
Très bien. Alors, excellente traduction, Nadège. Est-ce que tu partages le même genre de réponse? Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est comme ça que ça se passe?
Pardon?
C'est bien comme ça que ça se passe, tu confirmes?
Oui, tout à fait, voilà. C'était exactement ça.
Yeah, she's pretty good.
Une petite question là, cette fois-ci qui n'émette pas mon petit cerveau, mais qui voulait se faire l'interprète de notre ami que tu connais bien, Alain Jalbert, notre ami Jalbi, qui fait de la radio également depuis de nombreuses années et qui est un fidèle de Sweet Home Chicago. Il demande, voilà, question délicate. Bonnet a enregistré avec Alpha Blondie, Kenny Neal, James Cotton, Luther Allison. Quel est son meilleur souvenir?
Okay, so Alain, who also has a radio show, wants to know, you recorded with Alpha, James Cotton, Luther Allison, Lucky Peterson, je sais pas si c'est tous les noms que tu as dit, Marc, bon, ça c'est ça qui me vient à l'esprit.
C'est à peu près ça, ouais.
What is your best memory? Kenny Neal, sorry, I forgot Kenny Neal.
I don't know, the list goes on and on and on and on. My best memory would have to be my first memory. With James Cotton.
Oui, alors il y en a plein d'autres qu'on n'a pas cités. C'est vrai, tiens, j'y pense, on a fait une session aussi sur le dernier album de Lisa Simone au printemps, donc
ça
va sortir bientôt.
Mmh.
Et en fait, il dit que son meilleur souvenir serait sans doute en fait, les premiers enregistrements importants avec James Cotton.
Voilà.
But you know, every recording that you do, it somehow turns out special because if you're working for another artist, you're getting the spirits of what's coming out of their head. So that's always special to see what they're thinking about in music.
J'adore ce
genre. Mais en fait, chaque enregistrement, c'est une expérience particulière parce que quand tu enregistres pour quelqu'un, il faut vraiment que tu te mettes dans l'état d'esprit et que tu épouses ce que l'artiste, lui, a dans la tête et son style et ce qu'il veut. Donc chaque enregistrement, en fait, est particulier et différent.
Bien sûr. J'adore ce genre de réponse. Je n'entendais pas moins de Bonnet parce que je connais pas par cœur Bonnet Field, bien sûr, mais je connais certains de ses traits et notamment son côté très très humain, très très humaniste, très partageur, très enfin voilà, quelqu'un de généreux. C'est peut-être l'adjectif qui va résumer tout ça. Je me doutais bien qu'il allait répondre à un truc comme ça. Et j'en rajoute un petit peu parce que dans la liste il manque une chanteuse pour le disque de laquelle il avait beaucoup participé. À vous, avec toi également, Nadège, c'est Shanna Waterstone.
Okay, he said he knows you a little bit and he has the image of you as a pretty much generous artist, and there is also an other album that you worked on was with Shanna Waterstone. Je n'ai pas fait cette session, moi, j'étais pas là ce jour, je n'ai pas enregistré sur l'album de Shanna.
Okay.
So what you pardon, excuse-moi, je te parle en français, Marc.
Ouais, bien sûr, mais tu peux me parler en anglais, même en coréen du Nord, parce que j'en suis à la leçon 1.
What do you want to know about Shanna's album? Allô?
Ah oui, alors ça c'était une question.
Ah, oui, c'est revenu. On a eu une petite coupure de 2 secondes.
Alors, je voulais savoir s'il en avait un souvenir particulier, tout simplement, parce que j'ai quand même l'impression qu'il a fait plus que son rôle, qu'un rôle éventuellement de Sandman, mais également de producteur. En tout cas, l'album et cet album de Shanna Waterstone, qu'elle a enregistré il y a une petite dizaine d'années, est fortement imprégné du style de Bonnet Field. C'est pour ça que je posais la question.
Ok, so he would like to know, is there anything special about Shanna album, because it really, you can hear Bonnet Field style. So what did you do on it? You were a producer, you was a...
Well, I did a little producey done it, and you know, add some nice touches to it, but you know, I was truly trying to concentrate on her building her own image, and that had to come with her voice. Now the music, she plans to do another album sometime in the near future, and maybe she'll come with her own ideas, I don't know, but you know, I'm glad I was a part of it was fun.
En fait, même si je n'ai pas participé, moi, personnellement, Nadège, à l'enregistrement. J'ai quand même assisté à tout le processus de création de cet album. Et effectivement, Shana est arrivée voir Bonnie avec ses chansons, en fait, mais c'était une mélodie et des paroles. Et voilà. Et donc, derrière, il a fallu faire tous les arrangements.
Voilà.
Et voilà, ça a été l'œuvre, une œuvre collective aussi. Hein. Il y avait Bonnie, il y avait Jerry Leonid à l'époque et Pierre Chabrel. Et c'est aussi pour ça, effectivement, qu'on retrouve la touch, la Boniface touch, et peut-être le son et le style de Boniface sur cet album. Et ensuite, effectivement, il a fait toute la réalisation artistique en studio, les voiles, etc., le coaching vocal, entre guillemets. Et par contre, il expliquait qu'il essayait vraiment de la pousser à trouver sa propre personnalité. Et d'ailleurs, elle doit faire un prochain album... Un nouvel album, prochainement, et voilà, il sait pas trop où ça en est, mais il espère que, voilà, elle a une identité de toute façon, mais qu'on la verra vraiment clairement dans ce nouvel album.
Très bien. On va revenir une dernière fois sur ce disque, Bum City. On a dit qu'il était disponible un petit peu partout depuis hier. Quand est-ce que vous allez pouvoir le défendre sur scène? Quelles sont les prochaines dates de Boniface en septet? Et puis peut-être dans d'autres formations un peu plus réduites, parce que je sais que de temps à autre, il vous arrive de jouer en quartet. Est-ce que c'est toujours le cas d'ailleurs?
Alors là, c'est peut-être plutôt moi qui vais répondre parce que j'ai une meilleure maîtrise du calendrier et de la géographie. donc déjà, il y a un concert de sortie d'album qui aura lieu au Jazz Café à Paris le 30 janvier.
D'accord.
Donc Save the Date. C'est l'ancien petit journal Montparnasse, en fait, qui a été repris. Ça, il y a un changement d'équipe, toute la déco a été refaite. C'est vraiment un très très beau lieu, très chaleureux, très sympa. On y mange très bien aussi. Mmh. Voilà. En plus, l'entrée est libre, donc profitons-en. Ne nous privons pas. Et ensuite, mon cher Marc, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a des dates dans la région, dans Normandie.
Alors,
voilà,
vas-y,
il y aura
on t'écoute.
Le 20 mars à Cléon, la traverse.
Et super, super. Le 20 mars à Cléon.
Et ensuite le 20 juillet au Mosaic Festival au Havre.
Ah d'accord, donc Le Havre et Cléon, voilà, là, c'est la Seine-Maritime qui emporte le lot pour mars et juillet.
Le Souboc, on va bien y arriver quand même.
On va y arriver un jour parce que ça fait quand même 12 ans que ça dure cette histoire.
Hein. Voilà, donc il va falloir qu'on trouve une solution et on va la trouver.
On va la trouver. J'ai mis la liste des concerts qu'on peut retrouver sur le boniface.com, j'ai mis ça sur le timeline de Sweet Home Chicago, comme ça les gens pourront continuer à piocher. Il y a également une collaboration avec un saxophoniste anglais qui s'appelle Sweet Screamin' Jones, donc avec lequel il a enregistré il n'y a pas très très longtemps. Ça sera ma dernière question pour Bonnet, justement par rapport à ce disque et également par rapport à ses goûts personnels. Je sais qu'il est plus tenté quand il écoute de la musique pour lui-même vers le jazz, c'est vrai?
Okay, so Mark is talking about your collaboration with the, je te cite Mark, the English sax player Screamin' Jones.
English? I thought he was French.
En fait, Screamin' Jones est français et même breton. Voilà.
Bon, alors tu vois, je pensais qu'il avait des racines anglaises, donc voilà.
Mais à coup pas. C'est le nom.
English Breton.
Oui.
C'est un grand breton, voilà, on va dire c'est un grand breton.
Ça marche, merci.
Voilà. Et he said, this is a jazz album that you did with Screamin' Jones,
yeah.
and your preference when you don't play your music goes to jazz?
Well, my preference has always been jazz, blues, funk, reggae, so, you know, soul, funk, rock and roll, you know, that's my preference. So if you hear me playing blues, I'm playing blues. If I'm playing jazz, I'm into jazz, you know. I try to adapt myself to all musical cultures.
Oui, en fait, il aime un petit peu tous les styles quand même. Effectivement, il a joué avec Alpha Blondy, c'était du reggae. Il aime le jazz, il aime le rock, il aime le funk, il aime le blues. Simplement, voilà, quand il joue dans un style, il essaye vraiment d'être à fond dans ce style-là.
D'accord.
Voilà, I'm a blues man.
C'est un bluesman.
C'est un bluesman. Ne nous fourvoyons pas.
Excellente conclusion. Bonnie, thank you again for all your answers to my few questions. And I wish you the best for this album, Bum City. I wish you can defend it on the French public, on the European public, and American public too. And et merci beaucoup à Nadège pour toutes ces traductions.
Thank you, Mark, and thank you for having me. And to all the fans of 666 Radio, love you and hope I see you somewhere on my show.
Ah, that's cool.
Voilà, donc merci Marc, merci à tous les auditeurs de Radio 66 et 666, bref. Et voilà, et on vous adore et on est Bonnie espère qu'il vous verra à ses concerts, notamment en Normandie. Et Marc, je t'envoie ma facture pour la traduction.
Exactement. Alors tu l'adresses à Radio 666, il n'y a pas de problème.
Voilà, pas de problème.
Merci Bonnie, merci Nadège, à très bientôt sur la route du blues. Bye bye, ouais, thank you,
merci
Gay.
Merci Marc et bravo.
Merci, ouais. Thank you, bravo à vous deux. Au revoir.
Bye bye.
Voilà, toujours un grand plaisir d'interviewer Bonnie Fields, grand bluesman de Chicago, trompettiste, chanteur, entertainer. Voici Ain't Giving Up On You. Un album qui va faire du bruit, c'est celui de Bonnie Fields qui s'appelle Bum City. Encore merci à Bonnie Fields et à Nadège Dumas pour l'interview, la traduction pour Nadège et l'interview pour les deux. Et puis longue vie bien sûr à ce disque et à tout le groupe. Vous avez tous les sites qui vous attendent sur le timeline Sweet Home Chicago si vous suivez l'émission. Également sur Facebook, vous avez tous les liens qui vous attendent. On poursuit avec un nouvel extrait du disque du mois. C'est toujours Fred Chapelier Plays Peter Green, live recording s'il vous plaît. Avec, je vous l'ai dit, plein de musiciens enthousiasmants. Guillaume Destarac à la batterie, Christophe Garou à la basse, Patrick Baldran à la guitare rythmique. Et les trois invités, Elite Foot Rivette, Ahmed Mouissi et Pascal Bacot-Michaelian. On aura Fred Chapelier au téléphone pour une nouvelle interview juste après ce titre. I got a long gray man. She won't let me ride. Voilà, vous aurez reconnu le chant de Leadfoot Rivet, Alain Rivet, donc ici l'un des invités de Fred Chapelier sur l'album qu'il consacre à Peter Green. Fred, bonjour.
Bonjour Marc.
Ah super, on t'entend très très bien. J'espère que c'est le cas de ton côté.
Ouais, ça va, ça va. C'est un peu simple, mais je t'entends quand même.
Bon, c'est 3 sur 5, on va dire. On va essayer de faire l'interview comme ça. Fred, déjà, merci d'être là. Comme à chaque fois que je t'invite, finalement, c'est génial parce que tu nous fais deux albums en 2018, deux grands albums de Fred Chapelier, coup sur coup chez Dixie Frog. Je ne pensais pas que c'était possible de sortir deux albums coup sur coup, comme ça, à quelques mois d'intervalle, avec deux projets vraiment différents. Celui avec Dale Bled qui s'appelle Fred Chapelier on the Gents featuring Dale Bled, et puis celui-ci qui s'appelle Fred Chapelier plays Peter Green. Alors voilà, toujours autour d'un musicien avec un autre musicien. C'est ça un peu ton credo depuis quelques mois, de te mettre au service des gens, c'est ça?
Oui, de plus en plus. De plus en plus, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire depuis quelques mois maintenant. J'ai toujours adoré le faire, mais vraiment, c'est vraiment le chemin que j'ai envie de suivre pour les quelques années à venir, en tout cas, me mettre au service d'eux.
Alors, c'est ce que tu avais annoncé l'année dernière, et ça a fait peur à plein de fans, parce que tout le monde s'est dit « Oh là là, Fred Chapelier, arrête la musique !» Il n'en est rien, on le sait bien maintenant.
Non, j'arrête, évidemment, j'arrête pas la musique, mais j'ai envie de... Moi, je suis un amoureux des grandes voix, des grands chanteurs. Pour moi, c'est le plus important. On a beau avoir le meilleur guitariste de la planète sur un album, ce qui m'intéresse le plus, c'est la voix. Et le fait d'avoir des excellents chanteurs comme Les Foot ou comme Ahmed aussi, Ahmed Moussi, qui est un grand chanteur de rock et de blues, ouais. Ou Dale, évidemment, Dale Blade, j'en parle même pas. Ouais, pour moi, c'est juste un bonheur absolu, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner aux gens la meilleure musique possible avec la meilleure voix possible, quoi. Donc, même si je me débrouille bien au chant, j'ai conscience de mes limites. Et avec ces gens-là, il n'y a plus de limite. Tu vois, je peux écrire ce que je veux et eux, ils le chanteront sans aucun problème, quoi. Voilà.
Alors voilà, ce travail avec Dale Blade, dont tu avais interviewé il y a quelques mois au printemps à l'occasion de la sortie de l'album pour parler ça, et c'est toujours une actualité. Il y a eu des concerts récemment, et puis là maintenant arrive un disque consacré au répertoire de Peter Green. J'allais dire, c'est un petit peu le pendant pour toi de Roy Buchanan, ou c'est encore autre chose?
Ben, si tu veux, en fait, je vais m'arrêter là au niveau des hommages ou de Fred Chapelier plays quelqu'un, parce que mais je voulais vraiment le faire pour ces deux guitaristes en particulier, parce que ce soit Roy Buchanan ou Peter Green, énormément de gens sont passés complètement au travers, quoi. Et sont des gens qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils auraient mérité, d'après moi. Et j'ai voulu, à mon humble niveau, remettre au jour un petit peu ces mines d'or que sont leurs répertoires respectifs. Que ce soit Buchanan, à qui j'ai rendu hommage il y a 11 ans maintenant, ou alors Peter Green, voilà, je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui ne savent pas encore que Black Magic Woman, par exemple, c'est Peter Green et pas Carlos Santana.
Oui, tout le monde croit que c'est Santana, oui, effectivement.
Voilà, mais ça, c'est un détail, mais le reste de leur répertoire respectif est vraiment incroyable, quoi, dans un cas comme dans l'autre. Et voilà, et pour moi, il n'y a aucun intérêt de rendre hommage à Jimi Hendrix ou à B.B. King, tout le monde connaît, quoi, dans le monde du blues, tout le monde connaît, mais Peter Green, beaucoup sont passés au travers, et je me suis dit, ça fera l'occasion aussi à ceux qui connaissent de redécouvrir ou de réentendre ces chansons qui sont fabuleuses, et voilà, et faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas Peter Green.
Ça a dû être compliqué pour toi de choisir, parce qu'il y a 14 titres, c'est déjà énorme dans un album, mais les morceaux créés et joués par Peter Green et par Fleetwood Mac sont pléthores. Il y avait celui-là, par exemple. Est-ce que tu as réécouté toute la discographie de Peter Green et de Fleetwood Mac avant de décider de ce répertoire il y a 2-3 ans ?
Ben, en fait, comme c'est un des rares guitaristes de blues que j'écoute encore, je peux dire que ça fait des années que j'écoute régulièrement Fleetwood Mac et Peter Green. Ouais. Donc, j'avais au moins 40 titres en tête.
Wow.
On en a enregistré 24 ou 25. Et on aurait pu faire un double facilement. Mm-hmm. Mais je me suis dit, bon, faisons plutôt un simple qui soit vraiment béton de A à Z, le plus possible en tout cas. Voilà, et j'ai écarté ce qui me semblait un petit peu plus faible, pas au niveau des titres, mais au niveau de ce que nous, on en a fait, l'interprétation. Mais effectivement, c'était un casse-tête, quoi, parce que y a au moins 20 morceaux essentiels chez Peter Green. Et bon, voilà, il se trouve que je me suis dit, gardons vraiment les versions qui me semblent les plus probantes. Et c'est ce qu'on a fait.
Est-ce que Peter Green, c'est quelqu'un de particulier, guitaristiquement parlant? Qu'est-ce qu'il a d'autre par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'il a de plus ou qu'est-ce qu'il a de si captivant?
Pour moi, Peter Green a le plus beau toucher de la planète. Quand on parle de guitariste de blues, mais ça n'est que mon avis à moi. Mmh. Je détiens pas la vérité, mais c'est mon avis. Pour moi, voilà. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, hein, moi, je parle de l'époque 67 jusqu'à 70.
C'est ça.
Pour moi, il n'y avait pas. Toujours à l'heure actuelle, je ne vois pas qui a un toucher dans le blues aussi incroyable, avec un choix de notes aussi incroyable, avec autant de respiration, parce que prenez le temps de respirer, il n'y a pas énormément de notes, et c'est d'ailleurs le plus dur à faire. Personnellement, je me bats toujours encore à l'heure actuelle, en 2018, pour en faire moins des notes. On en fait toujours trop.
C'est ça que disait B.B. King, par exemple, c'est le conseil qu'il donnait à tous les guitaristes qui lui demandaient, qui lui posaient la question.
Absolument.
Ne joue aucune note. Il disait, ne joue aucune note qui ne soit pas indispensable.
C'est vrai. Mais souvent, les plus belles notes, c'est celles qu'on ne joue pas. elles sont suggérées.
Qu'est-ce que je dois être un bon guitariste alors?
Il faut que ça respire. Il vaut mieux trois notes bien jouées. Et B.B. King avait tout compris. Il vaut mieux trois notes bien jouées que six avec trois notes qui sont pas bien, quoi. Donc voilà, le toucher, le phrasé, le choix des notes, la respiration, le son, évidemment le son, la fameuse Les Paul 59, et puis direct dans l'ampli, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 12 000 pédales, voilà, et tout est dans les doigts, quoi. Enfin, c'est vraiment tout ça, et aussi le fait que Peter Green était, à cette époque-là, en tout cas, un immense chanteur aussi. Pas que le jeu de guitare, immense chanteur et grand compositeur.
Ouais, pendant qu'on parle, on écoute un titre que tu connais par cœur, qui s'appelle Same Old Blues. Moi, je me souviens surtout de la version de Freddie King, et elles sont assez proches l'une de l'autre, finalement. Hein.
Oui, c'est très proche. Ouais. C'est très, très proche.
Alors, on va se faire le solo, si tu veux bien, Fred.
Allez.
Alors là, au niveau de l'économie de notes, hein, ça illustre exactement ce dont tu viens de parler, Fred. Il n'y a rien de trop là-dedans. Hein.
Exactement, il n'y a rien de trop, il y a juste ce qu'il faut. Enfin, c'est tout l'art de bien jouer le blues, et crois-moi, c'est pas simple.
Alors, on va parler de cet album et des titres que tu as choisis, des choses emblématiques comme Albatros, comme Black Magic Woman. Je pense qu'on ne peut pas passer tellement à côté de ces deux trucs-là. Et alors, le reste, ça a été en fonction, le choix a-t-il été en fonction de votre interprétation à tous? C'était les morceaux où vous étiez le mieux dedans? Ou est-ce que vous vouliez faire véritablement en best-of en essayant d'occulter les choses un petit peu plus secondaires?
Il y avait au moins 24 ou 25 titres potentiels.
Voilà, c'est ce que je disais.
Que je voulais absolument enregistrer, et on les a tous enregistrés. Et après, le choix, c'est on a gardé ceux qui nous semblaient vraiment les mieux joués, les mieux interprétés, les mieux chantés. Voilà, tout simplement.
Donc c'est un best-of des sessions de Fred Chapelier. Ça veut dire que dans 2-3 ans, tu nous feras un truc genre... Anne-Mort, c'est pas l'édition des 6 ou 7 titres qui ne sont pas sortis entre deux.
Oui, en fait, j'ai prévu de faire une version spéciale sur iTunes.
Ah
oui, c'est volontaire. Donc, il y aura
il y aura les 14 titres de ce live et il y aura au moins 5 ou 6 titres bonus. Voilà, d'accord. Une version un petit peu de luxe entre guillemets quoi.
Ouais,
qui sera au même prix que l'album normal, mais ça je le ferai dans 6-8 mois à peu près.
Ah bah d'accord, ça viendra relativement vite. 2019 donc. Pendant qu'on parle, il y a des gens qui interviennent sur le Facebook de Sweet Home Chicago. Il y a Nadège Dumas qui était au téléphone tout à l'heure, qui te fait un petit coucou déjà.
Oui, excuse-moi, j'ai pas bien entendu ce que tu viens de dire.
Je te disais que tu avais le bonjour de Nadège Dumas qui vient d'intervenir à l'antenne.
Ah, tu les embrasses de ma part, moi je les embrasse s'ils écoutent en tout cas.
Ils écoutent, exactement. Il y a Olivier Durousseau qui te dit, le toucher de Clapton est quand même pas mal aussi. Hein. Le toucher de guitare de Clapton, hein, puisque tu parlais de Peter Green, et lui il trouve que Clapton c'est quand même pas mal non plus.
Eric Clapton ?
Ouais.
Oui, après c'est une question de goût. Si on parle d'Eric Clapton, je suis désolé parce que je t'entends de plus en plus mal, mais...
Ah. Alors attends, mais on va couper la musique derrière.
Clapton, c'est bien ça ta question. C'est un grand guitariste qui chante très bien, qui a toujours très bien chanté, mais qui chante de mieux en mieux. Enfin, sur ces 10 dernières années, j'adore vraiment la façon dont il chante, Eric Clapton. Il a tendance à pas en faire trop. Il a prouvé depuis moult décennies que c'est un grand guitariste. Mais il me touche moins. Il se trouve qu'il me touche moins parce que c'est une question de goût.
Ben oui,
c'est
tout simplement, d'accord.
C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça.
Et il y a également notre ami Jalbi, Alain Jalbert, qui, parce que tu parlais de cet hommage à Peter Green, on évoquait également l'hommage que tu avais rendu à Roy Buchanan. Il disait, pourquoi pas un petit hommage à Michael Bloomfield aussi.
Ouais, mais en fait, oui, ça ferait un peu doublon parce que c'est une bonne suggestion et il a raison. Grand guitariste aussi, mais bon, on est un peu dans la même veine que
Peter Green. Ouais, bah oui.
Mais pour les mêmes raisons, je dirais que il mériterait un album aussi hommage parce que c'est un mec qui est pas si connu que ça et beaucoup de gens sont passés au travers alors que c'est une référence.
Oui, effectivement. Alors, pour revenir sur ce disque, voilà, les 14 titres sont là. Ce sont des titres live. Il fallait absolument l'enregistrer live, ce disque. Il n'aurait pas pu faire l'objet d'un enregistrement studio.
On s'est posé la question. Je me suis posé la question, puis je me suis dit non, mais quand même, cette musique-là est faite pour jouer live. Et c'est jamais aussi bien que quand on joue live, quoi. Et le fait d'avoir un public, de jouer dans un club qui était rempli les deux soirs avec une grosse ambiance, ça change quand même beaucoup de choses. Ça change la façon de jouer, de chanter, ça change beaucoup de choses. Et je me suis dit, non, c'est quand même, cette musique, elle doit être enregistrée live. Voilà.
Est-ce que tu as rencontré Peter Green ?
Non, malheureusement non.
Pas encore ?
Pas encore, mais j'espère que ça ne tardera pas.
Parce que Peter Green, il a 72 ans maintenant. Ça fait quelques années qu'il a connu des ennuis de santé. Je ne sais pas où j'en ai maintenant, mais il a quand même connu des sacrées galères. Il a été pris en charge par d'autres musiciens pour continuer à enregistrer sous son nom. Voilà, ça a été de belles réussites, notamment au début des années 2000. Je ne sais pas si tu as des nouvelles récentes, s'il a toujours eu l'actualité musicale.
Bah, en fait, il est vraiment en stand-by depuis quelques années. J'ai des nouvelles. Moi, je communique pas mal avec son neveu. Qu'il voit très régulièrement et il va bien, mais il est fragile maintenant, il est plutôt jeune et puis il est passé au travers de tellement de choses dans sa vie.
Oui.
Et comme tu dis, il a eu tellement de soucis de santé que maintenant je pense qu'il a mérité de se reposer et puis je pense qu'il vit une vie paisible et il profite, il joue encore un petit peu de guitare, mais surtout chez lui, à la maison, d'après ce qu'on me dit.
D'accord.
Mais il va pas si mal que ça par rapport à... Il aurait pu mourir 50 fois, quoi.
Ouais, donc, bah écoute,
donc c'est pas si mal.
On croise les doigts.
Mais il joue plus vraiment sur scène.
Okay. C'est quelqu'un dont te parlent les fans après un concert de ce répertoire-là. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir en te disant « Ah là là, j'ai vu Peter Green en telle année, ça m'a rappelé la belle époque ?»
Ouais. Très souvent, je rencontre, j'ai même rencontré des Anglais, parce que cet album a l'air de plaire aux Anglais, je reçois plein de mots hyper gentils de la part des Anglais.
C'est génial.
Qui sont vraiment contents que quelqu'un, et en plus un Français, je veux dire, on est quand même habituellement meilleur pour faire à bouffer ou pour faire du parfum que pour jouer le blues. Donc les Anglais, ils sont marrants, moi je m'entends bien avec les Anglais, et là je reçois beaucoup de messages de gens, voilà, vraiment bien joué. Enfin voilà, voilà. Et je sais plus ce qu'était ta question au départ. Mais
cas... La question, c'était de savoir s'il y avait des gens qui te parlaient de Peter Green et qui l'avaient vu en live et qui trouvaient que ton interprétation.
Ouais, alors là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit. Bon, effectivement, évidemment, c'est des gens qui ont déjà un certain âge maintenant, mais qui m'ont dit oui, on l'a vu. Je l'ai vu avec John Mayall ou alors je l'ai vu avec Fleetwood Mac au début des années 70. Mm. Oui, ça arrive. Ça arrive assez souvent, finalement.
À l'époque où toi, tu usais tes fonds de culotte, Fred, on est d'accord.
Absolument. Moi, en 70, j'avais 4 ans.
Eh ouais. Ouais. Alors, voilà, Peter Green, ça reste une légende pour certains. Ça restera à jamais un inconnu pour d'autres. Mais le groupe Fleetwood Mac, on le connaît pour d'autres répertoires. Parce qu'à partir du début des années les 73-74, ça a glissé vers un rock FM très californien, qui est très bon aussi dans le genre, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce que faisait Peter Green et toute la bande à l'époque. Est-ce que tu continues aussi à écouter la période Fleetwood Mac des années 75-80?
Alors, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que c'est un très bon groupe. C'est un excellent groupe. Je trouve qu'ils ont eu, ils ont été judicieux dans leur choix parce qu'ils auraient pu essayer. Parce que, faut quand même bien dire que, à l'époque où Peter Green était dans Fleetwood Mac, c'était le groupe de Peter Green, hein. C'était lui, le meneur, c'est lui qui composait, c'est lui qui chantait la plupart du temps. C'était le groupe de Peter Green, la première version de Fleetwood Mac. Après, ils ont juste posé la question. Est-ce qu'on recherche un guitariste chanteur au risque d'être moins bon, parce que c'est quand même pas évident de remplacer Peter Green à cette époque-là. Et en fait, ils ont choisi une voie totalement différente et leur avenir leur a donné raison, quoi, parce qu'ils ont cartonné encore nettement plus d'ailleurs, nettement plus. Et voilà, c'est devenu un groupe pop. Bah oui. On aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'apprécie hein, les titres, quelques titres.
Bah, les albums Rumors, les albums Tusk.
Oui, mais je ne peux pas dire que j'écoute vraiment. Quoi.
D'accord. Une autre question qui n'a rien à voir, c'est par rapport à ton interprétation de l'œuvre de Peter Green. Tout à l'heure, j'ai cru reconnaître, alors tu vas me dire si je me plante complètement, mais dans un des solos de ce premier titre, des gimmicks à la Alvin Lee. Est-ce que c'est voulu, ça, ou est-ce que c'est juste mes oreilles qui m'ont trahi?
Technique à la, j'ai pas compris.
À la Alvin Lee, Alvin Lee de Ten Years After.
Alvin Lee, alors ça c'est pas voulu du tout. c'est pas voulu du tout, mais c'est en me réécoutant, je me suis dit putain, on dirait Alvin Lee.
Mais voilà. Oui, ben voilà. Bon, ben alors c'est pas mes oreilles, bon c'est bien.
Non, c'est vrai, mais tu sais, voilà, moi j'ai baigné là-dedans, hein, j'ai grandi en écoutant ça, Dr. Feelgood, Alvin Lee, Fleetwood Mac. Bon, forcément, même inconsciemment, il y a des choses qui ressortent.
Voilà, forcément. On va quand même évoquer la sortie d'un album qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais un album qui fait beaucoup parler en ce moment. On va en écouter quelques secondes, si tu veux bien. Je te poserai une question juste derrière.
Si jamais on me dit que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. Si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas, car le jour viendra de répondre de mes actes, et je ne me cacherai pas. Oui, le jour viendra de respecter le pacte, et lui seul m'entendra. J'en parlerai au diable.
Voilà Fred, on entend ça depuis une semaine, c'est record des ventes en ce moment. Est-ce que tu as une impression particulière à nous livrer à propos de ça? Parce qu'il faut quand même rappeler que tu étais sur scène lors des derniers concerts de Johnny en juillet 2017.
Ouais, je dirais que c'est vraiment vache de sa part à Johnny d'avoir sorti son album le même jour que moi.
Ah putain, bah oui, ah là là, ça va pas du tout. Ça,
ouais. je plaisante évidemment. Ouais. Non, mais quand on aime ou qu'on aime pas, quand on entend cette voix, on peut que reconnaître le talent, quoi, je dirais. Et puis ce qui est incroyable, c'est que plus il avançait dans l'âge et plus sa voix était profonde, chaude et puissante, quoi. Ça, c'est un mystère, hein. C'est un mystère, ce garçon. Et quand même, c'est assez émouvant. Moi, en entendant ça, évidemment, ça me replonge sur scène à ses côtés, et c'était vraiment quelque chose de l'accompagner. Hein. c'était juste incroyable. Moi qui aime me mettre au service des gens, là j'étais servi, quoi.
Ah bah oui, 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 forcément.
Et ouais. Non, c'était vraiment c'est émouvant, quoi, pour moi d'apprendre ça. Et je repense au garçon qu'il était, il était adorable. Grand fan de rock, grand fan de blues et de guitare, donc bon, on s'entendait très très bien. Voilà, c'est plutôt émouvant pour moi d'entendre ça, quoi.
Alors rappelons-le également, en 2010 tu as fait la tournée toutes les 85 ou 86 dates avec Jacques Dutronc. Est-ce que tu penses que 9 ans après, pour 2019, 10 ans après, pour 2020, il y a une chance que Jacques remonte sur scène lui aussi et fasse appel à toi à nouveau?
De toute façon, on est toujours beaucoup en contact, mais j'ai pas l'impression qu'il a envie de remonter sur scène.
Bon, il faudrait peut-être que Thomas le rebooste un peu, comme c'était le cas à l'époque, je sais pas. Thomas Dutronc.
Thomas et moi, on s'y est mis, hein, ensemble.
Ouais. Il fallait
faire ça. On s'y est mis ensemble et on n'arrête pas de le tanner, pour être clair et net. Mais tu sais, il a 75 ans, il a pas plus envie que ça, quoi. Il a pas plus envie que ça. Il a beaucoup de propositions aussi pour faire du cinéma, pour jouer dans des séries. Et puis pour l'instant, il décline tout. J'ai l'impression qu'il veut vivre tranquille, quoi.
Bon, c'est l'effet.
Il semble plus avoir trop la flamme, quoi.
C'est l'effet île de beauté, peut-être, avec l'effet île de beauté avec la bonne bouteille de vin sur la table, la petite sieste derrière.
Ouais. Mais il boit plus depuis 2 ans. Il boit plus d'alcool depuis 2 ans. Mais là, je le confirme, c'est réellement vrai.
D'accord. Fred, c'est un réel plaisir de te parler et puis de pouvoir évoquer ces grands artistes que sont Peter Green, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc ou Roy Buchanan. L'avenir du groupe Legends, alors est-ce que ce sera Fred Chapelier and the Jones featuring quelqu'un d'autre? Est-ce que tu vas continuer avec Dale Blaine très concrètement ou est-ce que tu vas t'intéresser à d'autres voix?
Oui, je suis parti dans l'optique de m'intéresser à d'autres voix si il y a d'autres projets dans le futur, ça sera avec un chanteur. Je sais pas, j'ai plusieurs pistes en ce moment, je travaille avec plusieurs personnes. Je veux même pas en parler pour l'instant, enfin, je veux pas donner de nom pour l'instant.
Oui.
Je travaille avec plusieurs personnes et effectivement j'ai un projet en tête qui, j'espère, verra le jour, tout en continuant Fred Chapelier and the Gents featuring Dale Blaine, mais ça peut très bien être Fred Chapelier and the Gents featuring quelqu'un d'autre.
D'accord.
T'as complètement raison.
Un Américain?
Plutôt, oui.
Ouais.
Plutôt Américain.
Plutôt du Sud?
Ou anglais, ça me plairait aussi.
Ah oui, un anglais en vue, d'accord. Bon, c'est pas de Joker.
Anglais ou américain, ça me plairait. Je suis vraiment dans l'optique de continuer à écrire des chansons, mais pas spécialement pour moi, quoi. Pour des voix. Mmh. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai en tête pour les 2-3 ans à venir, en tout cas. Je continue à me produire en quartet, évidemment. Là, j'ai encore pas mal de dates pour promouvoir ce live Fred Chapelier Plays Peter Green. Donc ça, ce quartet-là, il sera encore sur la route pendant pas mal de mois, entrecoupé de concerts avec Dale Blaine, avec les Gents, voilà, tout en travaillant sur l'écriture de nouvelles chansons pour un projet que j'ai en tête, dont je te parlerai peut-être un peu plus tard,
si
il y aura le jour.
Quand ça sera abouti,
voilà, et puis en ce moment, j'écris aussi on écrit une dizaine d'instrumentaux avec Vic Martin, qui était clavier de Gary Moore.
D'accord.
On ne sait pas encore trop bien ce qu'on va en faire, mais on a juste envie de le faire. Donc, je travaille aussi là-dessus en ce moment.
Très bien, toujours plein de projets. Alors, en guise de clin d'œil, il y a un autre intervenant sur le Facebook, Sweet Home Chicago, un fidèle lui aussi de Sweet Home, Arnaud Didier, qui te demande si ce serait pas un peu Florent Pagny. Non, c'est pas ça?
Ah non.
Non,
c'est quand même toujours quelqu'un qui a un rapport avec le rock, la soul, le blues, voilà.
Et puis Nadège qui termine et qui dit, et qui sait ou se souvient que Fred était le guitariste de Bonnefils début des années 2000?
Si je me souviens que tu étais
guitariste de Bonnefils au début des années 2000.
Bah évidemment, comment oublier, bien évidemment, j'en garde un excellent souvenir d'ailleurs.
Et également accompagnateur un petit peu plus tard de Nina Von Horn aussi, avec Patrick Baldrand d'ailleurs à l'époque.
Ben oui, parce qu'elle elle était en panne de guitariste, et puis moi, j'avais, je dis, ben écoute, moi, je veux bien te dépanner sur quelques dates, et puis, comme elle était contente, elle n'a pas cherché de guitariste, et ça durait, mais moi, j'avais envie de continuer mes projets à moi, donc à un moment, j'étais obligé de lui dire que j'arrêtais, quoi. Mais je ne garde que des bons souvenirs de toutes ces collaborations, en tout cas.
Fred, tu nous tiendras au courant de tous tes projets futurs, et en tout cas, on se revoit autour d'une bonne bière dans deux semaines, parce que tu viens au Souboc. Un petit mot juste pour terminer sur les futurs spectateurs. On n'est pas complet, mais presque, hein, ça commence à affluer de partout. Il y aura du monde, hein, au Souboc pour aller voir Fred Chapelier le 24 novembre. Un petit mot pour eux, Fred?
En tout cas, je suis ravi. Ça fait un petit moment que je suis pas venu. À chaque fois, ça se passe super bien. On est bien accueillis. Et puis, s'ils aiment Peter Green, ils vont être servis, ouais, et contents, je pense. Oui. Mais s'ils ne connaissent pas Peter Green et qu'ils ont envie d'entendre du blues et beaucoup de guitare, qu'ils viennent. Voilà.
Super. Super cool de ta part, Fred. En tout cas, c'était un réel plaisir, encore une fois.
C'est moi qui te remercie, comme d'habitude. C'est vraiment un plaisir, Marc.
Vraiment. Et puis, nous, on continue avec un extrait de cet album. Fred Chapelier plays Peter Green. C'est Albatros. Hein, je crois qu'on ne pouvait pas tellement passer à côté. Mais plus que les disques du mois, on écoutera d'autres extraits, bien sûr, le mois prochain. Il nous reste une heure à passer ensemble. Il y aura plein de dédicaces tout à l'heure. Moi, je te dis à dans 14 jours exactement. Je donne rendez-vous à tous les auditeurs qui seraient éventuellement spectateurs au Souboc, de venir, parce que ça va être la grande fête du blues avec des musiciens exceptionnels, dont toi, Fred.
Merci Marco, et je salue évidemment tous les auditeurs.
Merci Fred, à tout bientôt.
À très vite.